Je vous invite à chercher dans votre Bible le premier livre de Samuel, 1 Samuel, et le chapitre 16. Chapitre 16. Le chapitre 17 est probablement un des chapitres les plus connus de tout l'Ancien Testament. Raconte la bataille entre David et Goliath, c'est l'histoire qui se répète depuis des siècles. C'est une glorieuse, magnifique illustration de notre grand sauveur Jésus-Christ qui a affronté le péché et l'a vaincu. Mais ce chapitre-là, je le laisse pour Samuel, pour son retour et pour notre joie. Et je vous propose de lire cette fois-ci 1 Samuel 16, les versets 12 à la fin du chapitre, à 23. Isaïe l'envoya chercher. Donc, Isaïe, c'est le père de David. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, et ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül pour David son fils. Par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et il se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Dans la première partie du chapitre 16, on a vu David se tenant devant le prophète Samuel pour être oint comme futur roi d'Israël. Et dans cette deuxième partie, nous trouvons maintenant David se tenant devant le roi Saül, précisément celui qu'il va remplacer. Je trouve dans cette histoire une certaine ironie de la part de Dieu. Des années vont s'écouler avant que David monte véritablement sur le trône. Mais déjà là, au tout début, Dieu a permis à David d'être à la cour. Et je voudrais qu'on note ça. David est à la cour juste après avoir été oint, même s'il va peut-être s'écouler une dizaine d'années avant que véritablement il monte sur le trône. Dieu a déjà introduit David par ce moyen sur le trône. Les chapitres de la Bible se suivent et n'ont pas tous, semble-t-il, le même intérêt dans les Écritures. Les prédicateurs ont beaucoup prêché sur le chapitre 17, assez peu sur le chapitre 16. Et pour plusieurs raisons, je pense que c'est un chapitre qui n'est pas simple. Je voudrais qu'on voit ce matin une onction particulière On verra ensuite un esprit particulier et puis enfin un soulagement particulier. Regardons d'abord une onction particulière. Vous avez remarqué ici, au verset 13, l'esprit saisit David. Et au moment où l'esprit du Seigneur saisit David, verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Question. Qu'est-ce que c'est que cet esprit ? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ? C'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel. Mais alors, est-ce que ça signifie que le Saint-Esprit peut venir en nous et nous être retiré ? C'est inquiétant, non ? Parce que si l'Esprit peut nous être retiré, alors ça signifie que notre salut pourrait nous être retiré. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est ce que dit l'Épître aux Romains. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit d'une onction particulière. Il s'agit non pas du rôle du Saint-Esprit dans la régénération personnelle, dans le sens qu'on le trouve dans le Nouveau Testament, mais il s'agit ici d'avoir ou de perdre la puissance du Saint-Esprit pour accomplir le rôle de roi d'Israël. C'est intéressant que le verset 13, qui évoque ce revêtement de puissance, de capacité pour la charge du roi sur David, est suivi par le verset 14 qui décrit que cette même onction est reprise à Saül. En fait, au regard de Dieu, il ne peut y avoir qu'un seul roi. Aussi, quand Dieu donne la capacité à David, eh bien, il l'enlève à Saül. Saül l'avait reçu de la même manière, Regardez chapitre 10, verset 6. Chapitre 10, verset 6, il est écrit ici, « L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Ça, c'est l'annonce pour Saül de sa future royauté. Au verset 10, il est dit, « Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre et l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. » Et encore, chapitre 11, verset 6, il est dit « Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. » En fait, là, il va mener une bataille. Il va être fortifié par l'Esprit de Dieu pour partir combattre et rassembler, réunir tout Israël pour mener un combat. Dieu a souvent agi de la sorte en revêtant de son esprit ceux qu'il désigne pour une œuvre, ceux qu'il choisit pour une œuvre. Et parfois ce sont des croyants, des hommes de Dieu, parfois non. Par exemple, Cyrus le Perse, c'est un roi païen. La Bible dit, en Ésaïe chapitre 44, verset 28, et puis les versets suivants dans le chapitre 45, que Cyrus est appelé mon berger, mon serviteur. Il dit, c'est lui que je vais vous envoyer pour vous ramener en Israël après la captivité. Il dit, tout cela, plus d'un siècle avant que Cyrus ne naisse, il l'appelle déjà par son nom, mais aussi avant même que Cyrus ne le connaisse. Et ça, c'est très fort. Ça dépend simplement de l'onction que Dieu donne. Bien plus souvent, Dieu met son onction sur des ouvriers. Regardez Moïse, c'est le cas pour Moïse. En Nombre chapitre 11, Nombre chapitre 11, vous vous souvenez de Moïse, comment il était craintif à s'engager dans le service du Seigneur. quand Dieu l'appelle, il dit non, j'ai la bouche embarrassée. Et regardez ce qu'il dit ici. Nombre chapitre 11, verset 17. Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi tout seul. Ici, il est en train de choisir 70 ouvriers qui vont secourir Moïse pour paître le troupeau de Dieu d'Israël. C'est trop lourd pour Moïse. Et pourtant, il a donné à Moïse toute la puissance. Hein, il a mis son esprit sur Moïse pour qu'il conduise le peuple. Et puis à présent, il va prendre de cet esprit et puis le répandre dans les autres cœurs. C'est une onction particulière. Il le fera aussi, si vous vous souvenez, pour Betsalel. C'est cet homme que Dieu a choisi en Exode 31 pour bâtir le tabernacle. Et là, il le revêt de tout un tas il le revêt de son esprit pour pouvoir accomplir l'œuvre du tabernacle. C'est-à-dire, il lui donne aussi toute l'intelligence, toute la capacité, toute la touche artistique pour pouvoir accomplir cela. Et puis, il le fait dans les temps qui ont précédé le règne de Saül. Il le fait avec les juges. Il le fait avec Othniel. Il le fait avec Gédéon. Vous vous souvenez de Gédéon? Il a peur, Gédéon. Il n'ose pas. Il ne veut pas partir combattre. Il ne veut pas délivrer Israël. Il n'en a pas la force en lui-même. Mais la Bible dit que l'Esprit du Seigneur vient sur lui. Et c'est l'Esprit de Dieu qui lui donne la capacité d'accomplir la délivrance. Vous vous souvenez de Jephté, pareillement saisi par l'Esprit de l'Éternel, ou de Samson? Ce qui est encourageant avec Samson, c'est que de la même manière, l'Esprit a été retiré de Samson. La Bible dit, hein, quand il était sur les genoux de Delila, « Oh, je m'en tirerai encore. » Mais il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Et il n'avait plus cette capacité à être le juge, hein, à être celui qui est le libérateur d'Israël. Je crois que d'une certaine manière, ce type d'onction est toujours d'actualité. Lorsque Dieu appelle pour une œuvre, il nous rend aussi capables. Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 3, notre capacité vient de Dieu. C'est-à-dire, quand il pense à son ministère d'apôtre, il dit, je suis capable parce que Dieu me donne la capacité d'être apôtre et d'être l'enseignant de Dieu ou le missionnaire de Dieu. Il nous rend capables. Je pense au ministère de pasteur de Timothée, en 1 Timothée chapitre 1 au verset 18 et 19. L'apôtre lui écrit la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Il est en train de lui rappeler une prophétie qui a été faite sur lui. Au chapitre 4 et au verset 14, il lui dit « Ne néglige pas le don qui est en toi ». Et qui t'a été donné par prophétie, à nouvelle allusion, avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. C'est-à-dire que même les anciens ont reconnu le don qui avait été fait par Dieu à Timothée pour le ministère. Et puis, au chapitre, dans la deuxième épître, au chapitre 1 et au verset 6, Paul l'encourage et lui dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains ». Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Hein, là, il fait référence directement à l'esprit de Dieu. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est merveilleux. Dieu a équipé Timothée pour accomplir son ministère. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul lui rappelle, écoute, Dieu t'a équipé pour ça. Dieu t'a choisi pour ça. Dieu t'a fait cette, cette grâce, il a mis son esprit sur toi. Mais cette onction-là, elle est liée à l'obéissance. Je ne pensais pas que Louis et Marie-Thérèse Pelzer seraient de retour, mais c'est l'exemple que je voulais citer. Il a donné à Louis les forces qu'il n'avait plus pendant des années où il était infirme. Il lui a donné la sagesse, la vision, la foi pour animer le messager de la paix. Et Dieu, quand il appelle à une œuvre, il donne aussi la capacité. Il donne aussi l'onction pour accomplir l'œuvre. Je voudrais tirer trois leçons. D'abord, si Dieu nous appelle à une œuvre, ça c'est la première leçon, il nous donnera aussi les capacités nécessaires ou les qualités nécessaires pour accomplir cette tâche. Tous les ouvriers du Seigneur qu'on trouve dans les Écritures appelés à une œuvre disent « C'est pas possible, Seigneur, je n'y arriverai pas. Je me connais, je n'ai pas la capacité pour faire ça. » Mais Dieu dit « La capacité vient de moi. Avec l'appel, je vais aussi te donner la capacité d'accomplir cette œuvre. » Deuxième leçon, puisque c'est lui qui nous qualifie pour l'œuvre, il n'y a aucune raison de se glorifier nous-mêmes. Il n'y a aucune raison de se glorifier nous-mêmes, puisque c'est Dieu qui qualifie. Il n'y a aucune raison pour s'enorgueillir quand on est appelé comme David à la royauté, comme Saül avait été appelé à la royauté. Malheureusement, Saül s'est enorgueilli. Et c'est ce qui l'a amené à déchoir de ce ministère. Aucune raison de nous glorifier, de nous enorgueillir. Troisième leçon, si c'est Dieu qui donne, il peut aussi retirer. Probablement pas de façon arbitraire, mais pour une cause de désobéissance. Et c'est pourquoi ça doit nous saisir d'un désir de demeurer près du Seigneur. C'est pourquoi David, après sa chute avec Bathsheba, il prie l'Éternel dans le psaume 51, verset 12, il dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » C'est intéressant. « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » David avait reçu l'onction pour devenir roi. Et le Saint-Esprit était venu sur lui. Mais il se rend compte que par sa faute, il a entravé l'action de l'Esprit en lui. Alors il se demande, est-ce qu'il va m'arriver la même chose qui est arrivée à Saül? Est-ce que l'Esprit de Dieu qui me qualifie pour la royauté, est-ce que cet esprit-là va m'être retiré? Et il dit, non, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rétablis-moi dans la communion avec Dieu. Deuxième pensée, un esprit particulier. Dans notre texte, une des difficultés, c'est le verset 14. 1 Samuel 16, 14, où il est dit « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » C'est ça notre problème. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est quand même un esprit particulier, non? Et vous pouvez le tourner dans d'autres sens, de toutes les manières que vous voulez, c'est un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et c'est dit, regardez, à quatre reprises, au verset 14, au verset 15, c'est les serviteurs qui lui disent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Au verset 16, ils lui disent, « Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera et sa main, tu seras soulagé. » Et puis au verset 23 encore, « Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. » Mais encore plus loin, au chapitre 18, au verset 10, il est dit, « Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. » Et puis au chapitre 19 et au verset 9, il est dit, « Alors, le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. » C'est à chaque fois qu'il est fait mention de cet esprit, il est toujours dit, c'est un mauvais esprit et il vient de Dieu. Saül était vraiment troublé. L'esprit de l'Éternel s'était retiré de Saül. Et alors ce dernier, Saül, était soucieux. Il était sujet à des sautes d'humeur. Il était sujet à des crises incontrôlées, à de la furie. Il devenait agité. Il était irrité, irritable, contrarié, avec souvent un brin de folie. Et au fond, le jugement de Dieu s'abat sur Saül à cause de son orgueil et de sa désobéissance délibérée et répétée envers Dieu. En Deutéronome 28, regardez ces quelques versets, Deutéronome 28 rappelle à tout le peuple qui va entrer dans le pays promis les conditions de la bénédiction et les conséquences de la malédiction, de la désobéissance. Hein. Verset 15, il dit, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Et regardez, au verset 20, il est dit, « L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays. » Pardon, c'est le verset précédent, verset 20. « L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. » Et au verset 28, il est dit « L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. » Verset 34, le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Il y a ici un jugement de Dieu pour la désobéissance, pour l'orgueil qui nous fait sombrer dans une espèce de délire. Quand on résiste à Dieu, on se jette soi-même dans de terribles tourments. Le groupe de jeunes étudie l'Épître aux Romains, et au chapitre 1, la semaine dernière, on a vu Romains chapitre 1, plusieurs versets particulièrement intéressants. Il dit au verset 21, « Ils sont inexcusables. » Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voyez-vous, quand on s'oppose à Dieu, quand on ne reconnaît pas son règne sur nos vies, quand on ne le glorifie pas, on finit par s'égarer dans nos propres pensées. Il dit verset 22, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Verset 24, il dit, « C'est pourquoi Dieu les a livrés. » C'est-à-dire, Dieu nous donne ce qu'on veut au fond de nous et nous livre à ce que l'on veut, et ici il nous livre à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Bien que Dieu lui-même ne fasse jamais le mal, il envoie parfois certains mauvais agents pour accomplir son dessein. C'est surprenant. Dieu est souverain sur le bien et il est aussi souverain sur le mal. Et il est capable d'utiliser des agents du mal pour accomplir son dessein. Par exemple, il le fait avec les Babyloniens pour châtier Israël. Les Babyloniens, c'était un peuple qui était terrible. Ils ont coupé des têtes et des têtes et des têtes d'une manière... c'était des sanguinaires. Et Dieu dit, je vais utiliser Babylone, Nebuchadnezzar, comme mon instrument pour châtier Israël. C'est Dieu qui envoie les Babyloniens pour châtier Israël. Ça c'est Ésaïe chapitre 10, versets 5 et 6 notamment. Il utilise des faux prophètes pour tromper. Je voudrais juste peut-être lire cet exemple-là. C'est en 1 Roi au chapitre 22, donc quelques pages plus loin. 1 Roi chapitre 22, ici il s'agit d'une rencontre. Le roi d'Israël, Akab, a contacté le roi de Juda, le royaume du sud, Josaphat, pour monter en guerre contre la Syrie. Et Josaphat, qui n'aurait pas dû se trouver là, a dit à Akab, mais est-ce qu'on pourrait consulter des prophètes pour savoir si c'est bien la volonté de Dieu, tout ça? Alors il fait venir une quantité incroyable de prophètes, ils sont tous unanimes. On monte et on est vainqueur. On monte, on est en vainqueur, ok? Josaphat dit, est-ce que c'est vraiment là tous les prophètes qu'il y a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Il dit, il y en a un autre. C'est Michée. Et Michée, il prophétise jamais des bonnes choses. Alors ils vont le trouver et ils disent, voilà ce qu'ont dit les autres. Tu dis pareil. Alors Michée vient devant le roi Akab. Alors Michée, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais écoute, monte et tu seras vainqueur. Et lui dit, il lui dit pas comme ça dans la Bible, mais moi je transcris, tu te moques de moi? Et lui dit, voilà ce que je vois. Regardez ce qu'il dit au verset 19. 1 Roi 22, verset 19. Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, mais comment? « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Wow. Là, on voit clairement que Dieu utilise... Un démon pour remplir le cœur de tous ces faux prophètes qui sont déjà pas mal possédés et pour sortir un mensonge unanime. Tout ça pour que Akab meure, qu'il monte contre les Syriens et qu'il meure. Le roi Akab s'est fâché. Il a fait jeter Michée en prison. Il est monté avec le roi Josaphat. Et Akab est mort de la même manière. Il a utilisé un ange de Satan pour souffleter Paul et lui mettre une écharpe dans sa chair. C'est-à-dire, Dieu peut utiliser des choses. Il dit hein, en 2 Corinthiens 12, il m'a été mis une écharpe. Un ange de Satan m'a souffleté. Il m'a été mis. C'est Dieu. Et un ange de Satan qui a été envoyé pour souffleter dans le but de préserver Paul de l'orgueil. Et je trouve ça encourageant de se dire Dieu règne sur le bien et sur le mal, mais quand Dieu agit, quand Dieu envoie un mauvais esprit ou un de ses agents, c'est toujours avec des intentions qui sont justes. Il a utilisé des hommes méchants, Judas, Pilate, Hérode, les sacrificateurs de l'époque, pour mettre Jésus en croix. C'est la Bible qui le dit. Mais là encore, c'était afin que son dessein de salut s'accomplisse merveilleusement. Alors quel est le dessein ici? Quel est le but? Pourquoi envoyer un mauvais esprit? Mais le but, c'est ce qu'on lit dans les versets 15 à 22, c'est le but, c'est de faire venir David à la cour. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit, mais faites vite. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un des fils d'Isaïe bethléémite qui sait jouer. Et c'est ainsi que David est envoyé à la cour. C'est étonnant que les serviteurs de Saül, au verset 18, ils ont déjà reconnu le sceau de l'approbation divine sur ce jeune homme. Ils disent hein, ici, c'est aussi un homme fort. Il sait jouer, il est habile hein, en musique. C'est aussi un homme fort et vaillant, un gars courageux, un guerrier, parlant bien. Et d'une belle figure. Mais regardez surtout, et l'Éternel est avec lui. C'est ça qu'il est. Et l'Éternel est avec lui. Il voit chez cet homme déjà que l'Éternel est avec lui. Eux, ils ont reconnu l'onction de Dieu sur David. Saül, il ne peut pas imaginer un seul instant que celui qui est avec les brebis d'Isaïe, son père, et celui qui se tiendra devant tout Israël, celui qui prendra sa place sur le trône, on ne peut pas imaginer que c'est cet homme-là qui va le remplacer. Deux leçons. La première leçon ici, c'est si Dieu et sa grâce ne règne pas dans notre cœur, le péché et Satan sauront vite nous accaparer. Si Dieu et sa grâce ne règnent pas sur nos cœurs, le péché le fera. Le péché le fera. Et on doit être saisi de cette pensée, ne pas croire qu'on est meilleur qu'un Saül, ou qu'un David, ou qu'un Salomon. Si nous n'agissons pas, si nous faisons pas, si nous n'obéissons pas au Seigneur, si Dieu ne règne pas sur notre cœur, si nous n'avons pas cette application-là, le diable le fera. Deuxième leçon, Dieu est souverain sur le mal comme sur le bien. Et il utilise l'un et l'autre avec une parfaite science pour l'accomplissement de son dessein. Alors ne perdez pas courage. Lorsque des choses difficiles vous atteignent, Dieu est aussi à l'œuvre dans ces choses pour l'accomplissement de ses desseins bienveillants. Dieu est aussi à l'œuvre dans ces choses pour l'accomplissement de ces desseins qui sont toujours bienveillants. Dans les choses difficiles, les afflictions, la bonne attitude, c'est toujours la repentance. Toujours la repentance. Pensez à ça. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que Saül fasse? Qu'est-ce qui aurait pu changer? C'était la repentance. Si vous voulez avoir une bonne théologie de la souffrance, pensez à ça. Chaque fois que vous êtes amené à souffrir, réfléchissez. En quoi est-ce que je peux me repentir? En quoi est-ce que je peux m'humilier? En quoi est-ce que j'ai besoin de revenir au Seigneur? Toujours la repentance. Je vais essayer de vous mettre l'image. Vivement qu'ils reviennent. Voilà, troisièmement, ça va se faire tout seul, je pense. Un soulagement particulier. Là encore, c'est un problème. Tout ce texte est un problème et tout est particulier. Regardez dans notre passage, 1 Samuel 16, le verset 23. 1 Samuel 16, verset 23. Il est dit ici, « Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise. » Et il se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Et lorsque le mauvais esprit... David jouait de la harpe, et ça apaisait Saül. C'est extraordinaire, non? Je trouve ça merveilleux, cette pensée. Celui qui est oint roi sur désignation expresse de l'Éternel... Celui avec qui Dieu se tient, celui qui pourrait s'emparer du trône qui lui est promis, il est en train de servir le roi qui est déchu, le roi qui est malade, le roi qui est tourmenté. Et ça en dit long sur le personnage de David. J'aime cette attitude-là. Il a reçu l'onction. Il sait, je suis le prochain roi, c'est ma place. Il est assis sur mon trône. Dieu m'a déjà établi. Et il vient, et il est déjà fou. C'était facile de prendre le trône à ce moment-là. Mais il le sert humblement. Et il lui joue de la musique. Et là, on trouve le merveilleux pouvoir apaisant de la musique. La musique adoucit les mœurs. Vous savez quoi? On m'a souvent dit qu'après le passage de notre chorale dans les maisons de retraite, les patients sont plus calmes, plus tranquilles. La musique, les cantiques, le ministère de cette chorale fait du bien, elle apaise les cœurs. J'ai fait cette expérience encore cette semaine avec deux autres sœurs. On est allé rendre visite à une chrétienne atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique, SLA, c'est la maladie de Charcot, maladie terrible. La maladie a déjà paralysé tous ses membres, elle ne peut plus du tout bouger, elle ne peut plus du tout parler. Quand on est entré dans sa chambre avec son mari, elle baignait littéralement dans ses larmes. La tête complètement sur le côté, et elle pleurait à chaudes larmes. Elle avait juste toute l'épaule, toute trempée de ses larmes. On a chanté quelques cantiques, sans instrument. On a chanté maladroitement. Mais ces cantiques l'ont apaisée. Elle a cessé de pleurer. Oui, les cantiques l'ont apaisé. La musique a un impact certain sur les cœurs. Pensez à cela. Chantez pour vous-même. Chantez quand vous retrouvez des frères, chantez des cantiques. Chantez et priez pour le ministère de notre chorale. Priez pour le ministère de notre chorale. Il y a un vrai impact à soulager le trouble dans les cœurs au travers de cette chorale. Mais regardez, et c'est en cela que c'est un soulagement particulier. Il est dit ici, et lorsque le mauvais esprit, ça sous-entend à chaque fois, c'est d'ailleurs comme ça que c'est traduit dans la Bible du Semeur et dans plusieurs autres traductions, il est dit, dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venant de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait, alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. Le soulagement est ici, il est temporaire. Il est seulement temporaire. Il fallait que David revienne et revienne à chaque fois qu'il y avait du trouble. Et c'est pourquoi Saül l'a gardé à la cour. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est simplement temporaire ? Parce qu'on a soigné les symptômes et pas la racine du problème. David, c'est un type de Jésus-Christ, comme on l'a dit. Et ici, il est le type de Jésus-Christ qui apporte la paix, qui apporte le soulagement dans chaque situation. David vient, il joue, et Saül est apaisé. Et chaque fois qu'on voit Jésus arriver sur une scène, il dit « La paix vous soit ». Et le trouble s'en va. Il dit à la mère « Calme-toi ». Et la paix revient. Il chasse les démons et les démons sont et le possédé est délivré. La chose, c'est que lorsque Jésus vient, il chasse le trouble définitivement. Le trouble ne revient plus. Regardez, dans Luc chapitre 4, il cite, c'est Jésus qui se trouve dans la synagogue de Nazareth, et puis il cite au verset 18, il cite la prophétie le concernant en Ésaïe chapitre 61, verset 1, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus a ce ministère par excellence. Lui seul peut vraiment effacer le trouble définitivement. Un jour, il arrive, il traversait le lac de Galilée, et il arrive dans cette contrée de Génézareth. On voit cette histoire au chapitre 8, toujours dans l'évangile de Luc. Et au verset 27, je lis juste, « Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. » Verset 28, « Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jetant à ses pieds, il dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé. Depuis longtemps, on le gardait lié de fer, de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. » Voilà la condition terrifiante de cet homme. Et regardez verset 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Rien ne peut effectuer un traitement aussi radical que celui du sang de Jésus-Christ. Lorsqu'on le reçoit simplement par la foi, quand l'Esprit de Dieu nous pousse à la repentance et à la foi, on reçoit son grand pardon. Le problème réel de Saül, c'est qu'il ne voulait pas s'humilier. Il ne voulait pas reconnaître ses désobéissances multiples. Il rejetait l'autorité du roi des rois et du seigneur des seigneurs sur sa propre vie. Il avait au fond rejeté Dieu et il s'était mis lui-même sur le trône. La musique de David lui faisait du bien. Elle servait en quelque sorte de dérivatif dans ses pensées, mais elle ne pouvait guérir son âme malade. C'est Jésus seul qui peut apporter le pardon, la paix, le sens pour notre vie, la grâce dont nous avons besoin. Et je termine avec cette dernière leçon que l'on peut tirer de ce passage. Ne vous arrêtez pas à traiter les symptômes. Ne vous arrêtez pas à traiter les symptômes. Généralement, quand on est dans le trouble, quand on est dans l'agitation, quand on ne sait plus trop, vous savez ce qu'on fait ? On fait « Oh, il faut que je me change les idées. » Alors, je vais dans la musique, comme ici. Ça me fait du bien. Ça, c'est comme un exutoire. Ou je fais du sport. Je vais courir et puis alors là, ça me lave la tête, c'est ce qu'on dit. Ou alors on se jette corps et âme dans le travail, à fond dans le boulot. Peut-être c'est d'autres choses, d'autres pour d'autres c'est l'alcool, la drogue ou la pornographie. Hormis ces trois que je viens de citer, le sport, la musique ou le travail, peuvent être une aide momentanée. Mais vous devez aussi vous attaquer à la racine du problème et venir à la solution qui est en Jésus-Christ seul. C'est lui le prince de la paix. C'est lui le prince de la paix. Oui, on peut se changer les idées. La musique peut nous faire du bien, ou le sport, ou le travail, ça peut nous aider. Mais ça, c'est seulement les symptômes que l'on traite. Il faut s'attaquer à la racine, et la racine, c'est notre relation à Jésus-Christ.